parti. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, vous écoutez Transistor, nous sommes le vendredi 13 novembre 2020 et vous retrouvez ce soir un JRA confiné, un JRA décalé, mais un JRA bien réveillé car il est 20h et c'est donc l'heure de l'actu mixée, égalisée, montée et bien sûr amplifiée. Votre journal a fait une longue pause mais il est de retour pour décrypter l'actualité avec vous. Au programme ce soir, on parle de décence de président et de dents contre le projet de loi de sécurité globale. Il y aura aussi bien sûr de la culture, du sport et un peu d'écologie. On commence tout de suite avec l'international, Nicolas.
Oui, le message est tombé le 9 novembre 2020 dans le Haut-Karabakh, région du Caucase peuplée majoritairement d'Arméniens. L'Azerbaïdjan et l'Arménie ont signé l'arrêt temporaire des hostilités et c'est très clairement un cessez-le-feu, une paix signée Poutine. La Russie étant un très proche partenaire militaire de l'ex-soviétique d'Azerbaïdjan. En effet, la défaite est vraiment cuisante pour les Arméniens puisqu'ils perdent le contrôle militaire du Haut-Karabakh au profit d'une, je cite, « force de paix russe » puisque l'Azerbaïdjan reprend le contrôle de l'intégralité de sept districts voisins du Haut-Karabakh qui étaient en train de lui échapper et que les Azerbaïdjanais, de leur côté, expulsés, retournent chez eux sous l'égide de l'Organisation des Nations Unies. Tandis qu'à Bakou, on célèbre la revanche sur la première guerre du Haut-Karabakh qui a eu lieu entre 1988 1994, c'est la colère populaire qui prime à Yerevan, où des manifestations ont pris d'assaut des lieux de pouvoir symboliques de la capitale.
Et au Chili, dimanche 25 octobre, les Chiliens ont voté lors du plébiscite historique qui a été organisé pour savoir si le pays devait changer de constitution. Se débarrasser de la constitution de la dictature de Pinochet pour en écrire une nouvelle qui soit plus juste était une des revendications de la révolution sociale entamée en octobre 2019 dans tout le Chili. Les Chiliens et Chiliennes se sont mobilisés en masse le jour du vote, notamment les jeunes qui tournent d'habitude le dos à l'urne. Et c'est le oui au changement de constitution qui l'a emporté avec plus de 78% des votes. C'est une large victoire qui donne de la légitimité au processus constitutionnel. Le vote concernait également les modalités de la rédaction de la Constitution et les Chiliens ont voté en très grande majorité pour une assemblée constituante paritaire, composée des seuls citoyens et citoyennes élus sans parlementaires. Les membres de l'Assemblée seront élus en avril 2021 et une fois rédigé, le projet de Constitution sera soumis au vote en 2022.
Du côté de l'Éthiopie, de nombreux civils ont été tués dans un massacre au Tigré, région dissidente du nord du pays. Assassinés par des forces loyales au parti du pouvoir, ces personnes ont fait les frais d'un conflit violent. Oppose depuis le 4 novembre le Premier ministre Abiy Ahmed au TPLF, le Front de Libération des Peuples du Tigré, parti dissident au pouvoir dans la région du Tigré. Amnesty International dénonce un massacre et annonce 11 000 personnes ont fui au Soudan pour échapper au combat. Attaque qui ravive les rivalités communautaires en Éthiopie et interroge sur l'avenir politique de son premier ministre, prix Nobel de la paix 2018, qui cherche par tous les moyens à regagner le contrôle d'une région stratégique frontalière avec le Soudan et servant de couloir pour l'acheminement de marchandises et d'armes. Les opérations militaires se poursuivent, mais les journalistes n'ont pas accès à la zone de conflit. Suivre de près.
Et on passe au national maintenant, puisque nous sommes le 13 novembre. Il y a 5 ans, jour pour jour, 130 personnes sont mortes, tuées par des terroristes, et 350 ont été blessées à Paris, au Bataclan, rue de Charonne, rue de la Fontaine au Roi, rue Bichat et aux alentours du Stade de France. Des hommages sous haute sécurité leur ont été rendus dans la journée, et la Tour Eiffel s'est éteinte à 20 h ce soir.
La loi recherche, portée depuis près d'un an par la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Frédérique Vidal, approche d'un vote définitif à l'Assemblée nationale après son approbation en commission mixte paritaire cette semaine. Et le moins qu'on puisse dire est que l'inquiétude de la communauté universitaire n'est pas apaisée. Aux reproches déjà anciens envers une réforme qui ne finance pas suffisamment la recherche et précarise ses personnels, s'ajoute la véritable bronca soulevée par deux amendements adoptés en commission cette semaine. Le premier prévoit des dérogations au processus de qualification, lequel est une sorte de contrôle national des personnes ayant le droit d'obtenir un poste dans le supérieur. Cette procédure, qui fait l'objet de controverses anciennes, pourrait être contournée par les présidences d'université. Si l'université française est traversée par un débat de fond sur cette procédure de qualification, un point fait aujourd'hui l'unanimité, la réformer en force, sans vision et sans consultation, n'est sans doute pas des plus productifs. Signe de la complexité de cette question, c'est des très conservatrices facultés de droit qui est issu un appel à la grève, grève des cours en ligne sous le mot d'ordre écran noir. L'autre amendement, qui met le feu aux poudres, prévoit une amende de 45 000 euros et 3 ans de prison pour quiconque s'introduirait dans un établissement d'enseignement supérieur pour en troubler le fonctionnement. Les représentants et représentantes des personnels, des étudiants, dénoncent une atteinte grave à la liberté de manifester, comme l'explique la représentante du syndicat local à l'ENS, Anouk Tosac.
Évidemment, je trouve ça extrêmement grave. Mener des actions sur leur lieu d'études, c'est un moyen pour les étudiants et les étudiantes de se réunir, d'être visibles et de lutter pour de meilleures conditions d'études. Donc on est pris en fait dans un fonctionnement extrêmement autoritaire où on s'attaque à nos lieux d'études tout en nous empêchant de protester. Et c'est quelque chose au niveau du syndicat qui nous met d'autant plus en colère que c'est en train de se passer dans un contexte de confinement où finalement les moyens qu'on a de s'opposer et de montrer notre désaccord et de réagir à cette exposition sont extrêmement réduits.
Et par rapport au projet de loi sécurité globale qui va être débattu à l'Assemblée à partir du 17 novembre prochain, celui-ci a été porté par deux élus de La République En Marche et son article 24 du projet limiterait, voire interdirait la captation et la diffusion d'images identifiant les forces de police en exercice. En clair, il serait impossible d'identifier les membres des forces de l'ordre dans les cas des bavures, de les filmer durant les manifestations par exemple. Que l'on soit citoyen, citoyenne ou journaliste. La défenseure des droits Claire Hédon s'est dit préoccupée par le texte et a rappelé que l'information du public et la publication d'images relatives aux interventions de police sont légitimes et nécessaires au fonctionnement démocratique.
Et à propos de violences policières, Mediapart et Street Press révélaient hier dans une longue enquête les violences systématiques des policiers du commissariat du 19e arrondissement à Paris. Des violences qualifiées de torture, et pour cause, les témoins et les victimes rapportent des passages à tabac en groupe de personnes entravées, des violences et des humiliations sur des personnes blessées ou handicapées, des violences sexuelles ainsi que de faux documents médicaux passant sous silence les conséquences des exactions subies. C'est également la BAC du 19e arrondissement qui avait été responsable en 2017 de la mort de Liu Xiaoyou, dont la famille demande toujours vérité et justice. Et puis une constante, les insultes racistes et le choix des victimes de couleur par ces policiers. La lecture éprouvante de cette nouvelle enquête confirme, s'il était besoin, l'urgence de se saisir du problème des violences policières et du racisme systémique qui traverse des pans entiers de l'action publique. Et pour terminer cette édition Nouveau Couac retentissant pour la lutte prétendument antiterroriste en France, à Albertville, ce sont 4 élèves de CM2 qui ont été interpellés jeudi dernier à leur domicile sous la surveillance d'agents lourdement armés et le regard médusé de leurs parents. Si le professeur n'avait pas montré les dessins, il n'aurait pas été tué. Voilà la phrase prononcée en classe au sujet de l'assassinat de Samuel Paty, qui a valu à Emira 10 ans de passer une journée au poste. Les bravades du ministère de l'Intérieur Gérald Darmanin sur les réseaux sociaux n'ont pas empêché un rétropédalage express du parquet quelques jours plus tard. Reste que les enfants traumatisés ont dû changer d'école après ce témoignage d'affection de notre mère République, parfois un peu envahissante.
Et c'était le journal international et national. L'actualité est loin de s'arrêter pendant ce deuxième confinement. Il va donc falloir nous faire un petit tour des médias pour comprendre tout ça.